Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Noémie et Raphaël forment un jeune couple presque un peu trop parfait. Sur les réseaux sociaux, où ils sont devenus assez actifs depuis l'histoire qu'on vous raconte aujourd'hui, on le voit bien. Ils ont une vingtaine d'années, ils ont l'air libres, ils sont beaux, ils s'aiment, ils profitent pleinement de la vie. Ils ont grandi dans l'est de la France, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et puis ils ont pas mal bougé. Ils appartiennent à une génération qui a envie de mettre ses choix en pratique, de vivre conformément à ses idées, proche de la nature notamment, et de donner à ses enfants une éducation qui va dans ce sens. Plus tard, je les vois bien mettre leurs enfants à l'école de la forêt, par exemple. Noémie, elle, leur consacre beaucoup de temps. Ils vivaient donc heureux et eurent beaucoup d'enfants, jusqu'au jour où ils se sont trouvés confrontés à une machine infernale, aux soupçons et à l'arbitraire, qui ont précédé la peine infinie que peuvent ressentir des parents séparés de leurs enfants. Ou plutôt, des parents à qui on arrache leurs enfants. Voici comment ça s'est passé, un récit de Leïla Djitli.
Je m'appelle Noémie, j'ai 25 ans, j'habite près de Rennes, je travaille dans une crèche. Et je suis maman de deux petites filles qui ont 2 ans et demi et 4 ans et demi. Quand j'ai accouché de Nausicaa, mon aînée, la sage-femme qui s'occupait de moi, elle était assez sèche quand même, elle était assez dure. Par exemple, quand Nausicaa, elle est sortie, j'ai voulu faire la tétée d'accueil. Ça favorise énormément le lien d'attachement entre la maman et le bébé. C'est plus symbolique, quoi. Et elle a dit, non, mais ça sert à rien, la tétée d'accueil, enfin... Et puis j'étais recousue à vif, aussi. C'est-à-dire que normalement, on met une petite pommade pour anesthésier la douleur. Et moi, j'avais pas eu de péridurale, donc j'étais très contente de ça. Mais pour me recoudre, elle m'a dit, bah, soit je vous mets la péridurale, donc j'ai dit, bah non, soit bah, je vous recous comme ça. Et donc pendant 20 minutes, j'ai été recousue à vif. Donc ça a fait très très mal. Pire douleur que j'ai jamais eue, quoi. Je me suis pas du tout sentie en sécurité à l'hôpital. Quand je suis sortie de l'hôpital après mon premier accouchement, je me suis dit, je veux pas revivre ça. Je suis tombée enceinte de Lou, donc de ma deuxième, c'était il y a 2 ans et demi. Et donc, une personne de ma famille, proche de moi, avec qui j'étais très amie, a accouché seule chez elle. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas du tout eu mal, que c'était très facile, que tout était fluide. Ça m'a fait très très envie. Et surtout qu'il faut savoir que cette personne, en fait, elle est directrice en maternité. Elle a vu comment ça se passait en maternité. Ça lui a vraiment pas vendu du rêve. Et ma mère, elle a aussi des violences obstétriques à l'hôpital. Pour mon petit frère et ma petite sœur, elle a accouché à la maison. Donc déjà, c'était connu pour moi. Je savais que ça pouvait bien se passer. Donc ça me paraissait naturel, normal et sans inquiétude, quoi. Et c'est pendant les 3 premiers mois de grossesse qu'on a regardé s'il y avait des sages-femmes disponibles pour faire des accouchements à la maison. Et en fait, c'était très compliqué parce que mon compagnon, il recherchait un travail partout sur la France. Et au final, en fait, on a déménagé 2 mois avant que j'accouche. Raphaël, il avait trouvé un travail à Rennes. Et donc, on est allé à Vitré. On a trouvé une super maison. Je me sentais super bien. Et quand on l'a prise, je me suis dit, ah ouais, moi, je veux trop accoucher ici. Enfin, voilà quoi. Et donc forcément, bah, 2 mois avant, il n'y a pas ce truc-là de pouvoir trouver d'un coup une sage-femme qui nous dit « bah oui, bien sûr, je vous prends », alors qu'elle ne nous a pas vus dès le début, etc. Mais bon, on était à 10 minutes d'une maternité au cas où ça allait mal. J'ai eu les débuts des contractions à 18h. On a passé la soirée. J'ai endormi Nausicaa à 20h, comme tous les soirs. Et à 2h du matin à peu près, là je commence à avoir mal. Et d'un coup, il y a mon corps qui s'est mis à pousser. Je commence à dire « Raphaël, viens !» et tout ça, voilà. Il y a eu une grosse contraction où la tête est sortie. Et après je lui ai dit « bah là ça y est, la prochaine elle va sortir, prépare-toi, etc. » Je l'ai senti arriver et donc Lou elle est sortie à ce moment-là. Donc ça s'est vraiment fait tout seul. Il l'a attrapé dans ses mains, il me l'a donné dans les bras, donc je lui ai donné une tétée. Elle a pas pleuré, elle était toute éveillée, énergique, avec des couleurs. Enfin, et donc après, je me suis allongée, elle a fait que tétée. Raphaël, il est venu nous rejoindre, donc on a dormi à trois le reste de la nuit. C'était trop bien, quoi. C'était vraiment incroyable. Donc quand il n'y a pas de témoin médical de la naissance, le papa fait une attestation sur l'honneur qui atteste qu'il a vu l'enfant naître. Et en fait, bah, les mairies n'ont pas l'habitude de ce procédé, parce que forcément, il y a très peu d'enfants qui naissent sans assistance médicale. Et donc au début, la mairie a refusé, en disant qu'il fallait un papier médical, etc. Ce qui est faux dans la loi. Donc Raphaël est revenu sans déclaration. Il nous restait plus qu'un jour pour déclarer Lou. Et donc, le lendemain, on y est retourné tous ensemble, à quatre. Moi, je me suis dit que ça allait peut-être les rassurer de voir que Raphaël, c'était pas un voleur d'enfants ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Il nous attendait. Et en fait, entre-temps, il s'était renseigné. Et donc, la dame nous dit, effectivement, bon, vous avez le droit. OK, on accepte. Et elle nous dit, mais par contre, je vais devoir faire un signalement à la PMI. Bah, faites ce que vous avez à faire. C'est votre travail. Et en fait, je reçois le lendemain un appel d'une dame de la PMI qui, au téléphone, mène sa petite enquête, qui me demande pourquoi est-ce que j'ai accouché à la maison. Et en fait, moi, sur le moment, je lui dis pas que c'était mon choix, parce que j'ai peur que ça l'inquiète. Et donc, je lui dis que j'ai accouché trop vite. Voilà, elle me demande si on a prévu de faire examiner Lou par un médecin, etc. Et on raccroche. Et après ce coup de fil, j'appelle notre médecin pour justement programmer l'examen de Lou, parce que quand un enfant naît à la maison, il doit être examiné sous 8 jours. Et quand je l'appelle, il est bizarre au téléphone, je sens qu'il est bizarre, et il me dit « Les services sociaux m'ont appelé, et je vous conseille plutôt de faire l'examen de vérification de l'état de Lou chez eux, pour les rassurer, parce qu'ils ont des inquiétudes. » On appelle la PMI. Ils nous disent non, on n'est pas habilité pour faire ça. Par contre, on peut vous prendre un rendez-vous à la maternité. On dit ok, et donc on a un rendez-vous là-bas, quoi. Et donc moi, à ce moment-là, je commence à me sentir mal. En plus, il y a les hormones du postpartum et tout. Je passe une ou deux journées à beaucoup pleurer. Je sais pas, j'ai peur qu'on me prenne les filles. Enfin, je me sens très très mal. Et en fait, moi, il faut savoir que ma grand-mère, elle est directrice de l'ASE, donc vraiment des services sociaux, en Lorraine. Et donc j'appelle mon père, je lui fais part de mes inquiétudes et tout ça. Et il me dit, mais Noémie, ne t'inquiète pas, on prend pas des enfants comme ça. Au pire, il y aura une enquête sur vous pour vérifier que vous êtes de bons parents, etc. Mais calme-toi. Donc tout le monde me dit de me calmer. Donc j'attends qu'une chose, c'est qu'on aille à cette maternité pour créer du contact avec les gens qui sont pseudo-inquiets et qui puissent être rassurés, qui puissent voir que Lou va bien, etc. Ce qu'on fait, c'est un vendredi, donc en gros, ça fait presque une semaine que j'ai accouché. On va à la maternité le matin. Donc le pédiatre examine Lou. Elle va très bien, tout va bien. Elle a pris le poids qu'il fallait. Tout est OK. Et en fait, Nausicaa, pendant qu'on fait l'examen de Lou, elle va jouer dans une salle de jeu à l'hôpital pour pas s'ennuyer. Voilà, donc moi je suis avec Nausicaa dans la salle de jeu, Raphaël il est avec Lou. Ensuite le pédiatre m'appelle et il me demande si je veux me faire examiner. Je lui dis non, non, ça va, pas du tout envie qu'on m'examine, je vais bien, tout va bien, voilà. Pendant qu'on fait des tests d'audition et tout ça pour Lou, le pédiatre s'absente. Et quand il revient, il nous dit « Bon, j'ai appelé la PMI ». Et ils vont passer cet après-midi chez vous. Et moi, je le regarde bizarre. Et avant même que je puisse dire quelque chose, direct, il se défend. Il me dit, mais c'est comme ça, c'est la procédure. Enfin, en gros, on n'y peut rien, c'est comme ça. J'ai juste un stress parce que, en fait, ça fait une semaine que je viens d'accoucher. La maison, elle n'est pas forcément propre et rangée. Je me dis, oh là là, il va falloir que je fasse le ménage et tout. Enfin, alors que je suis crevée, donc ça, ça me saoule. Mais je me dis, c'est tout, je vais le faire. En sachant que ce pédiatre, moi, il m'a fait une bonne impression parce que, notamment, il m'a dit... Moi, vous savez, je suis née à la maison, je suis pas là pour vous juger, donc je me sens en confiance avec lui. Donc on rentre, on attend toute l'après-midi, et il y a personne qui vient. Et au final, on a un coup de fil d'une dame de la PMI, c'est Raphaël qui les a au téléphone et elle dit on aimerait passer lundi pour prendre le poids de Lou pour vérifier que son poids est bon, est-ce que vous êtes ok? Et il leur dit bah en fait Noémie sera pas là puisqu'elle part chez ses parents avec les filles, donc ça sert à rien de passer. Et elle dit mais par contre faudrait faire ça du coup là où vous serez chez vos parents, et il dit ok on fera ça. Et donc suite à ça j'appelle mes parents en disant bah c'est bizarre, ils devaient passer, ils sont pas passés, bon on se voit demain, c'est cool, c'était une mauvaise passe, c'est derrière nous. Et au moment où je leur dis ça, on a une grande baie vitrée dans notre maison, et là je vois un cortège de voitures de gendarmes qui passe devant chez nous, et comme chez nous c'est un hameau, il n'y a que deux maisons, donc là je sais que c'est pour nous en fait. Raphaël, il arrive en courant, il me dit qu'est-ce qui se passe, enfin là vraiment une énorme montée de stress. Il se garde devant chez nous et là ils encerclent la maison, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs gendarmes qui sont autour de la maison pour vérifier qu'on parte pas. Ils entrent sans frapper, donc il y en a plein qui rentrent à l'intérieur. Moi j'ai Lou dans mes bras, Raphaël il n'a pas le temps de prendre Nausicaa, et donc le premier gendarme qui rentre nous dit on vient prendre vos enfants parce que vous êtes suspecté de maltraitance. Comment ça, on est suspecté de maltraitance? Je commence à poser des questions et tout ça. Forcément, je suis en état de choc. Et il nous dit juste ça. Il nous dit, voilà, on va prendre vos filles. Donc là, moi, je dis à Raphaël, Raphaël, prends Nausicaa, elle était juste derrière cette table-là. Il fait un mouvement pour la prendre. Et là, il y a un policier qui se met entre Nausicaa et Raphaël et qui dit, non, non, vous n'allez pas la prendre. Et donc là, Raphaël, il pète un câble et il dit « C'est le pédiatre, je le savais, je le sentais pas, il commence à s'énerver. » Donc les policiers le prennent, ils l'assoient sur une chaise pour pas qu'il bouge, pour pas qu'il réagisse. Et là, le gendarme, il me dit « En fait, soit vous coopérez avec nous et vous nous les donnez, soit on va vous les arracher et ce sera un traumatisme pour elle. » C'est une phrase qui est très très dure. Mais moi, ça acte à l'intérieur, je me dis « Je suis obligée de faire en sorte que le départ ce soit le moins traumatisant possible pour les filles, parce que sinon ça va se faire dans le sang et les larmes, quoi. J'avais pas envie que Raphaël il se fasse frapper. À ce moment-là, il y a Nausicaa qui me demande d'aller aux toilettes. Les gendarmes nous accompagnent aux toilettes avec une dame, et à l'époque, je savais pas, mais cette dame, c'est la dame qui s'occupe de notre dossier, donc des services sociaux. Et quand on est aux toilettes, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe là en fait et tout. Et elle me dit le pédiatre trouve que les filles ne sont pas en grande forme. On n'a que cette information-là. Mais dites-moi juste ça, dites-moi quand est-ce qu'on va les revoir. À ce moment-là, on est vendredi, et elle me dit, vous les verrez lundi, tous les jours, une heure par jour. Et Lou, bah, elle a une semaine. Et je l'allaite. Et donc je lui dis, est-ce que là, je peux tirer mon lait pour vous laisser du lait? Elle me dit non. Et je lui dis, quand est-ce qu'on pourra appeler pour avoir des nouvelles des filles? Donc elle m'explique qu'elles vont aller dans une pouponnière, qu'on ne pourra pas appeler ce week-end, et que je ne pourrai que les appeler le dimanche soir. Et je la regarde, et à ce moment-là, je ressens vraiment de la colère, et je lui dis, mais vous savez que c'est pas bien ce que vous faites. Et elle m'a dit quelque chose comme, c'est comme ça, c'est la procédure, c'est tout. Normalement, j'aurais dû pouvoir donner mon lait, et on a le droit d'appeler tous les jours pour avoir des nouvelles de ses enfants. Donc, Nausicaa a fini d'aller aux toilettes. Il y a une gendarme gentille qui me dit « Venez, je vais vous aider à préparer des affaires pour les filles. » Donc moi, j'ouvre leur armoire, j'essaye de préparer des choses, mais je sais pas pour combien de temps, je sais pas ce qu'il faut que je prenne. Donc j'essaye, et en fait, au bout d'un moment, elle se rend compte qu'en fait, j'arrive pas. Genre physiquement, mes mains ne prennent pas les vêtements, mon cerveau ne marche pas en fait. Et donc elle me dit « Bon, c'est pas grave, vous pourrez amener des vêtements plus tard, tant pis, laissez tomber. » Donc Raphaël, lui, il est toujours à l'intérieur, tenu par les gendarmes. Donc moi, je sors avec les filles dehors. Je mets Lou dans le siège auto, je lui dis au revoir. Je mets Nausicaa dans le siège auto et je lui dis, bah voilà, Nausicaa, tu vas passer un week-end dans un endroit, ce sera comme des vacances et nous, on te revoit lundi. Sauf que ce que je savais pas sur le moment, c'est qu'en fait, cette dame, elle m'a menti et qu'en fait, à l'instant où elle nous les prend, on va plus les revoir du tout. Je vois donc les filles partir dans la voiture, je ne sais pas où encore, parce qu'on m'en a pas informé. Et il reste encore les gendarmes. En fait, on discute un peu avec les gendarmes et je vois qu'ils se sentent mal et qu'ils n'ont pas d'informations. Je vois qu'ils comprennent que c'est pas normal, en fait. Et ils essayent de me remonter un peu le moral en disant, ben, courage, on espère que ça va aller et tout. Mais à ce moment-là, en fait, ils sont assez soutenants. De toute façon, je pense qu'ils n'ont pas l'habitude d'intervention où moi, j'ai gardé totalement mon sang-froid. On a essayé de comprendre la situation. Ils ont bien vu notre maison, que c'était pas un taudis, etc. Enfin, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, il n'y avait pas de problème et que le problème, c'était ce qu'ils venaient de faire. C'est très rare de prendre un nourrisson et c'est vraiment des cas qui arrivent qu'en cas d'extrême danger. Le dimanche soir, on est allé à la pouponnière parce qu'on est toujours dans cette croyance qu'on va les voir tous les jours. Et en fait, quand on va à la pouponnière, on voit que les dames, elles comprennent pas de quoi on leur parle, qu'en fait, on va pas du tout les voir. Donc là, c'est gros moment de craquage. Moi, je me mets à pleurer, je m'assois devant la pouponnière, je m'effondre, je fais que pleurer. Donc elles sont complètement perturbées, elles appellent un supérieur, et c'est ce supérieur-là qui va nous donner les informations qu'on n'a pas. Il nous explique que tous nos droits sont suspendus, et que on aura une audience dans 2 semaines, que d'ici là, on n'aura aucune possibilité de les voir. Et moi, je pleure comme j'ai jamais pleuré de ma vie. Et je sens que ça l'énerve énormément. Et donc, en fait, il se met à agresser Raphaël, à lui dire qu'en fait, c'est un mauvais père, que s'il continue comme ça, il récupérera jamais ses enfants. Et en fait, il nous chasse de la pouponnière. Raphaël s'énerve. Je sais pas, il est dans un état second, il parle tout seul et tout. Je le prends par la main pour qu'on parte, parce qu'en fait, ce gars juste, il me fait peur. On rentre dans la voiture sur le parking. Et j'essaye de rester calme pour pouvoir reprendre le volant. Et en fait, ce gars, il nous poursuit jusqu'au parking. Et au parking, il nous dit, vous dégagez là, maintenant, vous partez, etc. Enfin, il est hyper virulent. Donc, on part. Je me gare un tout petit peu plus loin parce que vraiment, je suis pas du tout en état de conduire. Et c'est là que j'ai pris mon téléphone et que je me suis filmée et que j'ai expliqué très rapidement la situation. Et donc, ce qui a vraiment déclenché le fait que ça a été médiatisé, c'est que je l'ai envoyé sur les réseaux sociaux. Et c'est cette vidéo-là qui a un peu fait le buzz, qui a été vu 1 million de fois. Et c'est ça qui a fait grandement réagir. Après, on s'est rendu compte que, dans ce qui concerne les placements et tout ce qui est le droit de l'enfance, ça a l'habitude de se faire en huis clos. Jamais c'est médiatisé. Et en fait, c'est très mal vu de médiatiser ça. On a compris ça quand on a parlé à l'avocate qu'on a prise finalement, qui nous a dit... Vous pouvez pas parler parce qu'en fait, si vous continuez à le faire, vous récupérez jamais vos enfants. L'ASE ne supporte pas qu'on parle en fait des dysfonctionnements et le juge, ça va pas le faire en fait. Vous serez pas gagnant. Et donc, Nausicaa et Lou, quand elles ont été placées en pouponnière, on n'a pas pu les voir pendant 1 semaine. Et là, par contre, la médiatisation, ça a aidé parce que on a pu obtenir des droits de visite plus rapidement que ce qu'a le droit à une famille qui n'aurait pas été médiatisée. Donc, ça a fait beaucoup, beaucoup pression. Et donc, on a eu le droit à les voir 1 heure au bout 1 semaine. Sachant que c'est des visites médiatisées, donc on n'est pas seul, on est dans une pièce, les filles arrivent, et là, il y a 2 personnes des services sociaux qui nous observent et qui notent ce qu'on fait. On n'avait qu'une hâte, c'était de les voir, et en fait, quand on a vu Nausicaa, ça nous a tués parce qu'elle était absolument pas dans son état normal. Elle faisait juste des tout petits gémissements. Elle était contre nous, elle était complètement... amorphe, hein, c'était horrible. Elle ne parlait plus, elle ne souriait plus, elle ne mangeait plus, elle était en train de faire une dépression de l'enfant. Et puis il y a eu surtout, au bout d'une heure, on a dû partir. Donc en fait, Nausicaa, ça a été un déchirement. Elle a hurlé tout ce qu'elle pouvait. Il y a une dame qui a dû la tenir pendant qu'on partait parce qu'elle comprenait pas, en fait. Et puis pour Raphaël, ça a été super dur parce qu'il se disait, mais on doit la protéger et nous, en fait, on vient la voir, on l'abandonne. Enfin, c'est renfoncer le couteau dans la plaie, en fait. Et puis pour nous, c'était une piqûre de rappel de ce que t'as plus, en fait. C'est le vide absolu dans tes journées, t'as plus tes enfants. Il y a une enquête sur nous pendant que les filles étaient placées. On a dû faire un rendez-vous chez une psychologue. Ça ressemblait plus à une garde à vue qu'un entretien psychologique. C'était vraiment une catastrophe. Ils ont aussi fait une visite de notre domicile. En fait, c'est plein de petites choses, mais par exemple, chez nous, donc on avait quand même une grande maison avec un jardin et tout ça. Au lieu de dire que, par exemple, c'était assez sobre chez nous au niveau de l'ameublement, ils ont dit, par exemple, chambre sommairement meublée. C'était plein de petites subtilités comme ça, de petits mots qui nous descendent un petit peu quand même, en fait, toujours. Donc il y avait ça, il y avait le fait qu'on était jeunes. Donc pour eux, c'était, ben, est-ce que vous avez quand même les épaules pour gérer deux enfants en bas âge? Vous avez peut-être besoin de soutien, besoin d'aide? En fait, la condition pour qu'on nous rende les filles, c'était qu'on coopère avec eux. Je pense qu'il y a une dame qui aurait bien aimé que je lui demande des conseils pour mon allaitement avec Lou. Comment est-ce qu'on allait pouvoir réparer le traumatisme de séparation qui leur avait été infligé, etc. Et moi, en fait, j'avais pas du tout envie de leur demander des conseils. Ce qu'on a appris après coup, qui a favorisé donc cet enlèvement, c'est que le pédiatre qui avait examiné Lou, quand il a appelé les services sociaux, il a en fait dit que Nausicaa, donc il a juste vu 2 minutes dans la salle de jeu, était en état de dénutrition apparente. Et donc ce terme, la dénutrition, c'est un terme qui dénonce de la maltraitance, qui dit qu'il y a danger et que c'est important d'intervenir rapidement. Quand les filles sont arrivées à la pouponnière, forcément elles ont tout de suite été pesées, mesurées, ils ont regardé est-ce qu'elles avaient des traces de coups, est-ce que forcément... Et donc en fait Nausicaa, elle n'est pas du tout en état de dénutrition, elle est juste en bas des courbes, parce que je suis un petit gabarit, parce que Raphaël c'est un petit gabarit, on ne fait que des petits bébés, et donc on est mince, voilà, c'est comme ça. Aussi parce qu'en fait, la personne qui s'occupe de notre dossier, elle partait en congé. Et donc, elle a voulu faire ça avant de partir en congé, pour être sûre que, ben, comme c'était un tout petit nourrisson, en une semaine, il n'y ait pas d'autres problèmes qui arrivent au cas où on soit maltraitant, en fait. Donc, il y a eu un emballement par rapport à ça. Il y a aussi eu donc le fait que c'est marqué que j'ai accouché donc, à la maison dans des conditions précaires. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils ont défini... Comment est-ce que j'ai accouché? Et c'est ça qui a lancé la machine des services sociaux. Quand on a eu l'audience, donc au bout de 2 semaines, dès le début, on nous a dit « Je vais pas maintenir le suspense. Ce soir, quand vous quittez l'audience, vous allez récupérer vos filles à la pouponnière. » Donc moi, directement, ça m'a vraiment soulagée dès le début. Et donc malheureusement, en fait, on est tombé un peu dans une guerre d'ego de qui a raison, qui a tort. À l'audience, ce qui se passe quand il y a eu un placement comme ça, les services sociaux, ils soumettent une idée au juge, qui est soit ben, on les laisse complètement tranquilles, soit on maintient le placement. Et eux, ils n'avaient pas cette humilité de dire « Ah bah oui, là, effectivement, on s'est trompé. Ah bah oui, là, un pédiatre a dit que cet enfant était en état de dénutrition, alors qu'en fait, c'est faux. » Je me souviens, c'était lunaire à l'audience quand la juge est passée sur ce point. C'est quand même le point qui a tout déclenché. Elle dit « Et là, alors, ce point de dénutrition, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Grand silence. Là, je crois qu'il y a une dame de la PMI qui explique juste que bon, ça a été une suspicion, mais qu'en fait, non. Ok, point suivant. Et ça, mais moi, ça m'a rendue folle, parce que je me dis « Mais on est juste un dossier, elle n'a pas 1000 ans à nous accorder, et des points qui, nous, sont décisifs dans notre vie. » Bah en fait, pour elle, c'est l'histoire de 10 minutes et c'est tout, en fait. Et ça, c'est horrible, quoi, pour nous en tant que famille. Quand il y a une erreur, déjà, il n'y a pas la reconnaissance de l'erreur. Et aussi, il n'y a pas de sanction. Enlever un nourrisson pendant 2 semaines et lui créer un trauma à vie, personne ne sera jamais sanctionné pour ça. Il n'y a pas quelque chose au-dessus des services sociaux qui leur dit bah, « en fait, là, c'est problématique, ça passe pas. » 15 jours de séparation, bah, forcément, pour un nouveau-né de 7 jours, ça crée des traumatismes à vie. Nous, on le voit bien avec Lou, comment est-ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est encore très impactée. Et pareil pour Nausicaa, quand on l'a laissée, elle était propre. Quand on l'a récupérée, elle se faisait pipi dessus tout le temps. Elle n'arrivait plus du tout à se contrôler. On a dû dormir avec elle pendant des mois. Dans le même lit, elle voulait même pas être sur un petit matelas à côté de nous, parce que rien que ça, ça lui faisait trop peur. Donc, dès qu'un adulte la regardait, elle se mettait à pleurer. Elle avait totalement perdu confiance en l'adulte. Dès qu'on fermait une porte d'une pièce où elle était dedans, elle paniquait. Dès qu'on la mettait dans un siège auto, elle paniquait parce qu'elle voulait pas qu'on la mette dans un siège auto. Enfin, en fait, il y a eu énormément de réactions comme ça, très fortes. Maintenant, ça va mieux, parce qu'on a reconstruit la sécurité qu'elle avait avant, en fait. Et Lou, il y a des angoisses de séparation qui sont présentes. Tous les soirs, au moment de lui dire bonne nuit, c'est très compliqué et il lui faut beaucoup de temps avant qu'on sorte de la chambre, et la porte, il faut pas trop la fermer et tout ça. On sent que ça vient la toucher à cet espace de « Ok, là, je suis séparée de maman. » Elle a peur que je sois l'un d'elle. Elle nous dit tout le temps « Attendez-moi, parce qu'elle a besoin qu'on soit près d'elle. » Et elle a tout le temps besoin d'être rassurée, quoi. Et on ne sait pas si ça va la suivre toute sa vie. On espère juste que, bah, à force de la nourrir de sécurité à ce niveau-là, ça va finir par aller mieux. Moi, j'ai eu beaucoup, surtout la première année, des phénomènes de reviviscence. Par exemple, quand je donnais la tétée à Lou, je revivais dans mon corps vraiment le moment où les gendarmes arrivent. Je sens que ça me prend, c'est plus fort que moi, ça m'envahit. C'est vrai que j'ai encore des peurs. Par exemple, c'est Raphaël qui fait tous les rendez-vous chez le médecin. Moi, je n'arrive plus à aller chez le médecin avec les filles. Moi, ma confiance, elle a été brisée à ce moment-là. Je me dis... Comment ce pédiatre, il a pu dire ça? En plus, je me dis qu'aujourd'hui, il n'est absolument pas inquiété alors qu'il a fait quelque chose de super grave, parce que c'est faux ce qu'il a dit, etc. Du coup, dès que les filles, elles sont malades, j'ai super peur qu'elles aient un truc grave et qu'en fait, on se dise que c'est à cause de nous. Donc Raphaël, lui, quand il va chez le médecin, je suis angoissée. Il faut qu'il m'appelle après pour qu'il me dise comment ça s'est passé. Ce que j'ai eu beaucoup pendant longtemps, c'était aussi quand on sortait avec les filles dans des lieux publics. Par exemple, la dernière fois qu'on allait au parc, Lou, elle s'est mise à pleurer. Et quand elle pleure vraiment très fort, quoi. Elle crie et tout. Et il y a une dame qui nous regardait avec un peu d'insistance. Et ben, j'ai eu peur. J'ai pris Lou, je suis allée dans la voiture. Et je suis rentrée. C'est pas rationnel, quoi. Mais je me dis, oh, elle nous regarde, peut-être qu'elle pense qu'on la maltraite. Et j'ai envie de me cacher, j'ai envie de fuir la situation, en fait. Ça va faire 3 ans en juin, le 3 juin. L'anniversaire de Lou, c'est l'anniversaire de l'enlèvement aussi. Donc forcément, quand on arrive dans cette période-là, j'y pense plus. Mais c'est quand même mieux parce que bah, forcément, avant, je sais pas, pendant 1 an, 2 ans, j'y ai pensé tous les jours. Tous les matins, quand je me réveillais, je me disais, on nous a enlevé les filles. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est de déménager. On est parti de la maison, on est parti à 1h30 de là-bas. Parce que ben, se lever tous les jours dans le même endroit où il y a eu ça, c'était trop difficile. Donc repartir dans un nouveau projet, faire des travaux dans une nouvelle maison et s'installer autre part, etc., ça nous aide à nous reconstruire petit à petit, à en faire une force. Savoir se défendre si c'était amené à se reproduire, quoi.
C'était « Ils ont enlevé nos enfants », un reportage de Leïla Djitli réalisé par Emmanuel Geoffroy. C'est Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre. C'est Luce Mourant, notre stagiaire, et vous pourrez retrouver à la page des Pieds sur Terre, à l'émission du jour, la référence de tous les réseaux sociaux où Noémie, notamment, ainsi que Raphaël, sont très actifs.